Passiva non te la tocco, lo sai?
Con Anaís, otro jueves medianoche, casi viernes, el número 22 de abril, mañana San Jordi. Estás en Barcelona con Contrabanda FM 91.4 o por el mundo por la web contrabanda.org. También puedes seguir el podcast al blog sexofonia.contrabanda.org. Mi mood de la noche es bastante melancólico, tristón, sarcástico y lúcido, así que voy a leeros un par de poetas y filósofos que o me dan caña, como Georges Bataille y William Morris, o me asombran de la verdad más terrible, como Cioran, Marcial y Roberto Juarros. Y para empezar, creo que sí, voy a poneros un poco de mi mood musical. Empezando por, bueno, Summer. Summer party. Coney Island dreaming. Les obsédés du pire, on leur en veut même au moment où l'on reconnaît la justesse de leurs appréhensions et de leurs avertissements. On est beaucoup plus indulgent pour celui qui s'est trompé parce qu'on croit que son aveuglement était le fruit de l'enthousiasme et de la générosité, tandis que l'autre, prisonnier de sa lucidité, ne serait qu'un lâche, incapable d'assumer le risque d'une illusion. L'âge des cavernes n'était pas l'idéal. L'époque immédiatement postérieure, oui, celle où, après une si longue claustration, on pouvait enfin penser dehors. Je ne lutte pas contre le monde, je lutte contre une force plus grande, contre ma fatigue du monde. Cette vieille sexualité est tout de même quelque chose. Depuis que la vie est vie, on a eu raison, il faut bien le dire, d'en faire si grand cas. Comment expliquer qu'on se lasse de tout sauf d'elle? Le plus ancien exercice du vivant ne pouvait ne pas nous manquer, marquer. Et l'on comprend que celui qui ne s'y adonne pas soit un être à part, un déchet ou un saint. Plus on a subi d'injustice, plus on risque de verser dans l'infatuation ou dans l'orgueil carrément. Toute victime se flatte d'être un élu à rebours et réagit en conséquence, sans se douter qu'elle rejoint par là le statut même du diable. dès qu'on revient au doute, si tant est qu'on ne l'ait jamais quitté, entreprendre quoi que ce soit paraît moins inutile qu'extravagant. On ne rigole pas avec lui. Il vous travaille en profondeur comme une maladie, ou plus efficacement encore, comme une foi. La mort, quel déshonneur, devenir soudain objet. Détester quelqu'un, c'est vouloir qu'il soit n'importe quoi sauf ce qu'il est. T m'écrit que je suis l'homme qu'il aime le plus au monde, mais il m'adjure en même temps d'abandonner mes obsessions, de changer de chemin, de devenir autre, de rompre avec celui que je suis. Autant dire qu'il refuse mon être. Détachement, sérénité, mot vague et presque vide, excepté dans ces instants où nous aurions répondu par un sourire si on nous avait annoncé que nous n'avions plus que pour quelques minutes. De tout ce qui est censé appartenir au psychique, rien ne relève autant de la physiologique que le cafard, actif dans les tissus, dans le sang, dans les os, dans n'importe quel organe pris isolément. Si on le laissait faire, il démolirait jusqu'aux ongles. Par souci thérapeutique, il avait mis dans ses livres tout ce qu'il pouvait y avoir d'impur en lui, le résidu de sa pensée, la lie de son esprit. Offrande musicale, art de la fugue, variation Goldberg. J'aime en musique, comme en philosophie, et en tout, ce qui fait mal par l'insistance, par la récurrence, par cet interminable retour qui touche aux dernières profondeurs de l'être et y provoque une délectation à peine soutenable. Quel dommage que le néant ait été dévalorisé par l'abus qu'en ont fait des philosophes indignes de lui. Quand on s'est arrogé le monopole de la déception, on doit se faire violence pour reconnaître à quelqu'un d'autre le droit d'être déçu. Rien ne rend modeste, pas même la vue d'un cadavre. Tout acte de courage est le fait d'un déséquilibré. Les bêtes, normales par définition, sont toujours lâches, sauf quand elles se savent plus fortes, ce qui est la lâcheté même. Convergeaient vers le mieux, les vieillards, furieux de ne pouvoir en profiter, mourraient tous de dépit. Heureusement pour nous, le cours qu'a pris l'histoire dès le commencement les rassure et leur permet ainsi de crever sans la moindre trace de jalousie. Quiconque parle le langage de l'utopie m'est plus étranger qu'un reptile d'une autre ère. on ne peut être content de soi que lorsqu'on se rappelle ces instants où, selon un mot japonais, on aperçut le « ah » des choses. L'illusion enfante et soutient le monde. On ne la détruit pas sans le détruire. C'est ce que je fais chaque jour. Opération apparemment inefficace, puisqu'il me le faut la recommencer le lendemain. Le temps est rongé du dedans, exactement comme un organisme, comme tout ce qui est affecté par la vie. Qui dit temps, dit lésion. Et quelle lésion ! J'ai compris que j'avais vieilli quand j'ai commencé à sentir que le mot « destruction » perdait de son pouvoir, qu'il ne me donnait plus ce frisson de triomphe et de plénitude, voisin de la prière, d'une prière agressive. À peine avais-je terminé une série de réflexions plutôt lugubres que je fus saisi de cet amour morbide de la vie, punition ou récompense de ceux-là seuls qui sont voués à la négation. On sort dans la rue à la vue des gens, extermination est le premier mot qui vient à l'esprit. C'est commettre une effraction qu'envoyer un livre à quelqu'un. C'est un viol de domicile. C'est empiéter sur sa solitude, sur ce qu'il a de plus sacré. C'est l'obliger à se désister de lui-même pour penser à vos pensées. À l'enterrement de C, je me disais, voilà enfin quelqu'un qui n'a pas eu un seul ennemi. Ce n'est pas qu'il fût médiocre, mais il ignorait à un point inouï l'ivresse de blessé. X ne sait plus que faire de lui-même. Les événements le troublent outre mesure. Sa panique m'est salutaire. Elle m'oblige à le calmer, et cet effort de persuasion, cette recherche d'arguments apaisants, m'apaise à mon tour. Pour rester en deçà de l'affolement, il faut fréquenter plus affolé que soi. Tous ces yeux durs, méchants, en cas d'émeute, on ose imaginer leur expression. Le mot « prochain » n'a aucun sens dans une grande ville. C'est un vocable qui était légitime dans la civilisation rurale où les gens se connaissaient de près et pouvaient s'aimer et se détester en paix. Rituel tantrique. Au cours de la séance d'initiation, on vous présente un miroir qui vous renvoie votre image. En la contemplant, vous comprenez que vous n'êtes que cela, c'est-à-dire rien. À quoi bon tant de s'imagrer quand il est si facile de s'aviser du peu que l'on est ? Être, c'est être coincé. Dans les familles fêlées, un rejeton surgit qui se voue à la vérité et qui se perd en la cherchant. Ce qui m'a étonné le plus chez la plupart des philosophes que j'ai pu approcher, c'était le manque de jugement. Toujours à côté, une remarquable inaptitude à la justesse. Le pli de l'abstraction vicie l'esprit. Depuis, mettons, une quarantaine d'années, pas de jour où je n'ai eu quelque chose comme une crise non déclarée d'épilepsie. C'est ce qui m'a permis d'être en forme et de sauver les apparences. Quelles apparences ? Les natures capables d'objectivité en toute occurrence donnent l'impression d'être sorties du normal. Que s'est-il brisé ou perverti en elles ? Impossible de le savoir, mais on devine quelques troubles sérieux, quelques anomalies. L'impartialité est incompatible avec la volonté de s'affirmer ou tout simplement d'exister. Reconnaître les mérites d'autrui est un symptôme alarmant, un acte contre nature. Ni ce monde, ni l'autre, ni le bonheur ne sont pour l'être abandonné au doute. J'essaie de combattre l'intérêt que je prends pour elle. Je me figure ses yeux, ses joues, son nez, ses lèvres en pleine putréfaction. Rien n'y fait. L'indéfinissable qu'elle dégage persiste. C'est dans des moments pareils que l'on comprend pourquoi la vie a réussi à se maintenir, en dépit de la connaissance.
Passionnément. Je t'aime passionnément.
Quintus, quod crura tibi, quod brachia abuelis, quod cincta est broibus mentula ton sapilis, hoc praestas la viene tuae, quis nescit? Amicae, qui praestas, culum quod la viene pilas? Quand tu t'épiles la poitrine, que tu rases tes jambes et tes bras, et les poils autour de ta pine, c'est sûr, Florent, tu penses à ta nana. Mais à qui penses-tu en t'épilant le cul? Un poco de Marcial, estoy ahora leyéndote, pero antes era el gran Émile Michel Cioran, en el texto original en francés. Espero que habrás pillado algo, si no hay traducciones muy buenas al castellano. Es extraído de su libro del 79, en francés, Écartèlement. No sé si se dice écartèlement, seguro que no, así que... Bueno, son aforismos y bastante asombrosos y oscuros. Ahora voy por más libertino, después de haberte pasado el poema más grande para mí de la poesía mundialmente francesa, es decir, de un rumano como Cioran, que con el mismo acento que tenía Cioran, aunque Cioran creo aún más rolaba los R's y hay que escucharlo. Hay algunas cosas que puedes pillar por la web en ina.fr, el Instituto Nacional de Audiovisual, donde hay entrevistas de Cioran increíble. Una, sobre todo, que vi, guapísima. Un gran filósofo. Se murió en 95, a los 84 años. Y Marcial, pues vamos atrás en el mundo romano. Te empecé a leerlo en latín. A ver si pillaste algo, yo nada. No sé si ni tengo la buena pronunciación, seguro que no. Pero seguimos, que es más divertido. Dicis, amore tui bellas, ardere puellas, qui faciem sub aqua sexte natantis aves. Tu dis que les belles filles brûlent d'amour pour toi, toi dont le visage fait penser à un homme qui nage sous l'eau. O sea, es súper sardónico, la verdad. Es solo insultos a gente. Parece un poco esa costumbre de los trovadores del suroeste de Francia y norte de Cataluña. Bueno, la Cataluña antigua, digamos. Norte de la Cataluña española, digamos, la Cataluña francesa actual, donde se altercaba así cantando a medias... y insultando al otro. Y esto fue en la Edad Media, y hay una sobrevivencia de esta costumbre y este canto en San Paulo, en el nordeste de Brasil. Había una peli muy buena, Saudade do Futuro, no sé si la habéis visto, que mencionaba esto, era un documental sobre los que seguían haciéndolo en la calle. Es medio rap ahora, pero así de insultos entre gente que se conocen. Y tú, tu madre, es una puta. Y yo, bueno, es siempre bastante básico, pero funciona y sobre todo el ritmo es fantástico. A ver, más pollas y coños y culos de Marcial. Esse nihil dicis quid quid petis in probe sina, si nil sina petis nil tibi sina nego. Ce n'est rien, dis-tu, quoi que tu demandes importe un sina. Si ce que tu demandes n'est rien, sina, alors dis-toi que je ne t'ai rien refusé. Quod spirat tenera malum mordente puella, quod descoritio quae venit aura croco, Winea quod primis cum floret canara gemis, gramina quod redolen, quae modo carpsit, uis, quod myrtus quod mesor araps, quod succina drita, pallidus eo ture quod igni solet, gleba quod aestivo leudieter cum spargitur imbre, quod madidas nardo passa corona comas, hoc tua, saeue puer diadumene, vasia fragrant, quid si tota dares illa sine inuidia. Ce que fleure le fruit que mord une pucelle, et la brise imprégnée de safran du Parnasse, et la vigne argentée qu'en fleurissent ses grappes, et la fraîche prairie où a brouté l'agnel, ce que sent le myrte, l'arabe moissonnant, l'ambre frottée, la flamme qui brûle l'encens, la glèbe arrosée d'une douce pluie d'été, une couronne sur des cheveux parfumés. Voilà, cruel enfant, l'odeur de tes baisers. Que serait-ce si tu les donnais franchement ? Pédélastie. Muecus es aufiliae, qui uir, scaevine fuisti. Rivalis fuerat qui tuus ille uir est, cur aliena placet tibi. Quae tua non placet uxor, nam quid securus nom potes arigere. A veces cambio, ¿no? ¿Has visto? A veces lo leo a la francesa, que el C se pronuncia que, y a veces a la italiana, arigere. Te voici l'amandat, toi qui fus son époux, et ton rival d'alors, le voici son mari. Pourquoi l'aimes-tu quand elle est femme d'autrui, et quand elle est à toi, n'as-tu plus que du dégoût? Dis, serait-ce que seule la sécurité te permet de bander? Esto es fundamental. Lo voy a traducir al castellano para que se entienda segurísimo. Ahora eres el amante de A, tú que antes eras su esposo, y tu rival de entonces ahora es su marido. ¿Por qué la amas tanto cuando es mujer de otro? Y cuando es tuya, solo tiene disgusto. ¿Sería entonces que solo la inseguridad te permite... ¡Ups! ¡Bandé! Oye, una palabra fundamental en mi vocabulario saxofonista es cuando tienes una erección, pero en forma más de jerga. Pues, ¿alguien me lo dirá? Al 933177366, quizás. Mentula cum doleat puero tibi, naeuole culus, non sum divinus, sed sio quid facias. C'est du cul que tu souffres, et ton bois de la queue. Je devine aisément de l'affaire le nœud. Super chiste. Le nœud, c'est la polla en francés muy sofisticado. Es un nudo. Vis futue nec vis mecum saufeia laurare. Nescio quod magnum suspicor esse nefas. Aut tibi panosae, dependent pectore mamae, aut sulcos uteri, prodere nuda times, aut infinitum lacerum patet inguen iatu, aut aliquid cuni prominet ore tui. Sed nihil est orum, credo, pulcherima nuda es, si verum est vitium peius abes, fatua es. Tu veux bien que je te saute, mais pas que je me baigne avec toi. J'imagine du coup, je ne sais quelle monstruosité. Tes mamelles pendent de ta poitrine comme des hardes, ou tu crains de laisser voir les rides de ton ventre nu, ou ta chatte mutilée, bée infiniment, ou quelque protubérance défigure l'orifice de ton con. En réalité, rien de cela, j'en suis sûre, tu es très belle nue. Mais alors, tu as un plus grand défaut, tu es pudibonde.
Thank you.
Empalmarse es la palabra. Stare luperche, tibi iam pridem mentula desit, luctaris demens tutamen arigere, sed nihil erucae fasciunt, bulbice salaces, in proba nec prosunt iam satureia tibi, coepisti puras opibus corrumpere bucas, sic quoque non vivit solicitata Venus, mirari satis os quisquam vel credere possit, quod non stat magno stare luperque tibi. Bandé, depuis longtemps, ta queue ne le peut guère. Tu t'agites pourtant comme un fou pour le faire. Rien n'y fait, ni oignon excitant, ni roquette, ni même désormais l'obscène sarriette. Tu t'es mis, à prix d'or, à souiller quelques bouches. Même ainsi réveillée, Vénus reste en sa couche. Bref, il est étonnant de voir à quel prix fou monte pour toi ce qui ne monte plus du tout. Prostitution. Rem peragit nullam sertorius inquat omnes, unc ego cum futuit non puto perficere. Timoleon commence tout, puis il s'arrête en cours de route. Quand il baise, vraiment je doute qu'il aille jamais jusqu'au bout. Ut patiar moecum rogat uxor, galle, sed unum. Vic ego non oculus eruo, galle duos. Ma femme voudrait que je lui permette d'avoir un amant, un seul. Et moi, je vais lui arracher les yeux, les deux. Sit culus tibi quam macer requiris, pedicare potes sabele culo. Tu as, mon cher Pelé, le cul d'une maigreur extrême. C'est au point qu'avec ce cul même, tu pourrais enculer. Que con culo tan flaco podría encular. Bueno, Marcial, nacido en 40 de esta era post-Cristo, hasta el 104 más o menos. Nativo de España y que vino a Roma bastante tarde, donde encontró protectores y, entre otros, Séneca. Esto era los epigramas de Marcial. Ahora, sigo con el francés y luego pasaré al castellano para los que prefieren empalmarse en su lengua. Louise, massage, rue Poissonnière, Turbigo. Poèmes et nouvelles érotiques de Georges Bataille. Os recordáis, mi querido Georges Bataille, sus poemas eróticos de, publicados, bueno, eran prohibidos hasta hace cuándo, hace tiempo. La primera, bueno, fueron escritos en 49, pero no fueron publicados durante su vida. Son póstumos. De hecho, estoy buscando si está incluido una pequeña biografía. No recuerdo cuándo murió, si en 60. Bueno, Luis, massage, rue Poissonnière, Turbigo. J'étais ravie. Honteux d'être ravie. Rien n'aurait pu me séduire davantage. Mais j'éprouvais durement la vulgarité prévisible de l'histoire. En même temps, je m'abandonnais à l'ennui d'une après-midi ensoleillée. J'aurais voulu sonner à la porte de Louise. Je calculais le temps qui me séparait de ce moment. Je m'efforçais d'imaginer un moyen de m'en rapprocher. À cette distance, un taxi m'aurait ruiné. Un quart d'heure, si j'étais à Paris, m'aurait suffi. Mais resté à Paris, je n'aurais pas eu l'apparition de la barque. Je m'irritais de ce retard. Mais la certitude, quand je saurais d'être déçu, ne fit que m'irriter davantage. J'aurais voulu sans attendre avoir le fracas d'un rapide sous les pieds. À grands pas, j'allais vers la gare. L'immensité du temps et de l'espace et la pauvreté de l'histoire m'accablaient. Rue Poissonnière, l'escalier était si court que, pris de peur, je décidai de m'y asseoir. Il me fallait gagner du temps. L'idée de la sonnerie qui tinterait dans l'appartement me gênait. Je m'encourageais en imaginant que personne ne saurait rien, qu'une passe serait la fin de mon histoire, que pour me consoler j'avais la solitude. Le bruit de la sonnette était violent. J'expliquais sans le savoir, sans le voir, Ah, la soubrette que je parlerais à la patronne. Je lui demandais seulement en un mot si personne ne lui avait parlé d'un monsieur et d'un canal. « On vous attend !» dit-elle. À ce moment, je vis le pied de cette soubrette. Il était chaussé de vernis fin dont la pointe soulevait la déchirure du tapis. Je levai les yeux en me demandant si la bonne n'était pas la fille du canal. Je le pensais d'abord. Elle était élégante, assez belle, mais la chevelure était différente et l'on aurait pu s'y tromper. Son visage inexpressif m'attirait. Elle ne me sourit pas, elle parlait lentement, comme si l'exercice de la parole l'avait ennuyée. « Excusez-moi, je dois téléphoner, » dit-elle. « Attendez au salon. » Elle ouvrit un réduit qui n'était pas moins misérable que l'entrée. « Voilà des livres, » me dit-elle. « Si l'attente vous paraît longue, quand j'aurai téléphoné, je viendrai vous tenir compagnie. »« Volontiers, » répondis-je en la regardant. Son langage impersonnel et l'ennui émanant d'une personne aussi belle me troublaient. Le fauteuil du réduit était défoncé. Je restais debout, j'imagine, dans l'état d'un accusé durant la délibération du tribunal. La porte se rouvrit et la fille en tablier blanc me demanda « Voulez-vous du champagne ?» Mon regard fit le tour des murs et du seul meuble du réduit. « Venez, » me dit-on simplement. « Ces dames seront là dans quelques minutes. » Je la suivis dans une chambre sans fenêtre que son luxe opposait à la misère du reste. Le plafond, les murs et la table étaient de glace. Le divan fait de la même moire métallique que les larges fauteuils sans bras. Une bouteille attendait dans un seau et mon visage minuscule se déformait dans le cristal des verres. « Je m'appelle Teresa, » dit la fille, toujours sur le ton de l'indifférence. « Vous êtes l'invitée de Madame Louise, » me dit-elle. Elle ouvrit la bouteille et versa le champagne dans des verres. C'était un excellent champagne et j'avais soif. Je bus le verre d'un trait. La fille me dit « Je préfère être à l'aise, vous permettez ?» Elle dénoua son tablier. Le devant de sa robe se déboutonnait. Un à un, lentement, les boutons sautèrent, après quoi elle enleva cette robe comme une veste. Elle était nue par-dessous. Sans plus faire attention à moi, elle alluma une cigarette, s'étendit sur une sorte de sofa et fit tourner la bouteille dans la glace. « Ça va, » dit-elle au bout d'un instant. « Vous n'êtes pas bavard, et moi non plus. Je ne sais pas à quelle heure madame viendra, mais elle m'a dit de vous amuser en l'attendant. » La nudité de Teresa avait une certaine bestialité. Elle n'était pas tellement velue. Seuls des sourcils épais et des touffes courtes de cheveux noirs en donnaient l'impression. Quelques parties de son corps fluaient avec quelque chose de gonflé, de difforme. Elle était jolie, mais irrégulière. Sa tranquillité était voyante. Ce qu'elle avait de sexuel gênait et attirait, comme une infirmité inavouable, mais avouée. « Je dois vous prévenir, » dit-elle. « Madame ne vous parlera pas. Elle me parlera à l'oreille. » Et je vous redirai ce qu'elle m'aura dit. Vous devez me dire maintenant si vous acceptez de faire ce qu'elle vous demandera. Elle vous demandera peut-être de vous laisser fouetter par Madame Louise ou par moi. Vous pouvez refuser, si vous voulez, mais maintenant. Tout à l'heure, si vous avez accepté, il sera trop tard. Je vais maintenant vous montrer le fouet. Teresa se leva, ouvrit la porte et appela. « Joséphine, les fouets !» La personne qui entra était vêtue comme Teresa l'était d'abord, d'une robe noire et d'un tablier, mais elle n'était ni si jolie, ni si jeune, ni si exactement soignée. Elle apporta un assortiment de fouets, le posa sur le lit et repartit. Je regrettais qu'elle s'en aille. Teresa maintenant s'animait. Le fouet qu'elle m'offrit pour la frapper était un martinet à 5 longues lanières. Elle le retira au moment où j'allais le prendre et frappant à travers le vide, elle en tira une sorte de sifflement de serpent. Elle le laissa tomber, prit la bouteille et remplit de nouveau les verres. Elle vida le sien aussitôt, m'invitant du regard à boire. Je bus en la fixant. Elle n'eut pour moi que le même immuable regard vide. Une fois de plus, elle emplit les verres et nous les sifflâmes très vite, comme on siffle sur un quai si le train démarre. Elle avisa un large bracelet de cuir que Joséphine avait déposé avec les fouets sur le lit. Elle le mit en haut du bras gauche. Des pointes sortaient du cuir en dehors, formant un hérisson de fer. Elle s'affairait à peine et je vis qu'à nouveau, les verres étaient pleins. Elle avala encore, et de la main gauche, ayant légèrement passé la main sur moi, elle me dit, et me passant mon verre, « Bois, c'est ton tour. Maintenant, j'enlève ta culotte. » Elle semblait immobile, mais à peine m'eut-elle débarrassée de ma culotte, elle ouvrit la porte en criant, « Joséphine, l'album !» Le bouchon de l'autre bouteille sauta, elle versa, Joséphine entra. Teresa, à la volée, lui jeta le contenu de son verre à la figure et lui dit, « Lèche !» en montrant sur le sol de glace la flaque de champagne d'un second verre. Comme le souffle lui manquait, Joséphine me passa l'album. Elle s'agenouilla pour lécher le sol. Teresa la troussa et frappa la croupe fine et blanche avec une rage dont elle paraissait incapable. L'ignominie ouverte de la fente de Joséphine apparut dans le bruit des lanières cinglant. Teresa s'arrêta, relâcha sa victime et me dit « Maintenant regarde l'album. À plat ventre, Joséphine, et lèche. » Et revenant à moi, je tenais l'album sans l'ouvrir, mais Teresa me dit « Madame arrivera tout à l'heure, mais en attendant, tu pourras t'amuser d'elle en voyant ses photographies dans l'album. Elle ignore que nous l'avons et que nous le montrons aux clients de Madame Louise. Jamais tu n'en parleras. » Mais elle tira d'une pochette dissimulée dans le plat de l'album une première image. « Nous ne montrons jamais celle-ci. » C'était une grande photographie d'une religieuse, un instantané dans un jardin. Vision de deuil d'où se dégageait un grand malaise. « Madame a d'abord été religieuse, » dit Teresa. « Elle est pieuse, mais le couvent l'a renvoyée. Elle dit qu'elle aime Dieu, mais ce qu'elle aime avant tout, c'est la noce. Regarde, là. » J'avais feuilleté un album où celle que j'avais d'abord aperçue dans la barque du canal se livrait nue à une sorte de géant. Mais les clichés les plus nombreux la représentaient dans les bras de la femme au sac, de Louise, dont l'obésité débordait d'un linge noir et luxueux. « Madame, me dit Teresa, n'a pas de nom pour nous. Nous l'appelons Sainte. Joséphine l'appelle Madame, mais c'est une bonne. Je l'appelle Sainte. C'est un nom qu'elle a découvert dans un livre que nous avons. Le connais-tu ? » « Oui, » répondis-je. D'un coup, Teresa enleva ma chemise et ma veste. « Joséphine, » dit Teresa, « tu commences. » Le sang coulait du derrière cinglé. Teresa maintint les blessures à l'abri de la robe de laine. « Elle s'y prend mal, » dit Teresa, « je vais l'encourager. » Elle prit cette fois une cravache, dont elle donna sur les cuisses de Joséphine un seul coup, mais si violent que le cœur lui manqua. Joséphine, sans crier, glissa du lit. Teresa prit sa place et lui dit « Aide-moi de la main. Relève-toi. Fais ce qu'on t'a montré. Aide-moi. » La voracité de Teresa me dressa. Elle était d'une habileté démoniaque. L'incongruité de Joséphine et le flot nerveux de Teresa me tendirent au point que j'aurais crié. Mais Teresa, maîtresse de sa violence, s'arrêta. Écartant Joséphine, elle emplit de nouveau les verres. Assise, elle fit montrant le mur du fond. « C'est une glace double. » Elle me laissa reprendre mes esprits. « Sainte est derrière. » dit-elle. Je demandai, « Mais Louise ?»« Louise aussi. Elle aide Sainte à s'amuser, je pense. Tu viens l'aider maintenant ?» Je vidai mon verre et me précipitai vers la porte. Je me jetai maladroitement sur la glace. Teresa se précipita. « Tu sais, tu ne dois pas lui parler. Elle me parlera bas, dans l'oreille. Je répéterai. Suis-moi. »« Mais l'album, lui dis-je. Elle a vu l'album ?» Ce fut la première fois que Teresa me sourit sournoisement. Teresa ouvrit la porte de la chambre où je vis Louise sur le lit en longue combinaison de soie rose. À côté d'elle, lui tenant la main, Sainte se tenait debout tout habillée. Un loup de velours noir la masquait. Mais je connaissais son visage et son corps. Ce qui aurait pu l'éloigner de moi achevait de la rapprocher. Sa robe, puisque j'étais nue, le masque noir était le signe de la débauche. Ce que maintenant je savais qu'elle avait vu et dont je n'avais pas cessé de trembler, me la livrait plus entièrement que si elle m'avait cherché, provoqué et sollicité par une impudeur. Elle me dérobait son regard et feignait l'indifférence comme si déjà sa chair secrète avait ruisselé de mes baisers. Ma bouche se gonflait de salive et le désir que j'avais d'elle la pénétrait visiblement de sa violence. Je l'enviais d'avoir aperçu la rage que m'avaient donnée dans l'album les images de sa nudité, et plus éperdue, celle du sinistre vêtement qui avait marqué sa défaillance, l'effort désespéré qu'elle avait fait pour échapper à la débauche. Mon cœur appelait vers elle. Je sentais mon corps en entier comme un outrage. Je regardai Louise. Il me sembla que l'horreur de son corps adipeux était un outrage plus grand. Je me précipitai sur elle dans le désespoir de jamais atteindre l'infamie qui se dégageait de ses bourrelets blancs et poilus. Je m'enivrais en la pénétrant de la pureté de ce visage, au-dessus de nous qui avait eu soif de tant d'impureté. Je pris la main de Sainte et la guidai vers le point même où se lève l'amour. J'aurais voulu mordre ses lèvres, mais Sainte se détournait de nous, laissait sa main inerte dans la mienne, chuchotait dans l'oreille de Teresa. Je me retournai vers Louise et me perdis dans l'abîme flasque de sa bouche. Il était comme son cœur, inaccessible. La limite de la mort reculait dans son épaisseur. À ce moment, que n'aurais-je donné pour être Louise et pour souiller Sainte de cette inexprimable laideur? J'abandonnais Louise inerte sur le lit et m'approchant de Teresa, j'étreignis le plus mal que je pus son corps debout. Je perdais le souffle. Je lui demandais « Que t'a-t-elle dit ?» Derrière Teresa, je vis Sainte se pencher sur Louise. Son visage sous le loup, sur le ventre de Louise, avait toute la pureté de la débauche. Maintenant la gravité atone de sa voix, Teresa me dit presque gentiment « Tu peux lui demander ce que tu voudras, tout ce que tu voudras, elle fera tout ce que tu voudras. Mais si tu as peur, va-t'en. » C'est ce qu'elle m'a dit. « Teresa, répondis-je, puis-je moi-même lui parler ?»« Peut-être, me dit-elle, mais elle ne m'a rien dit et elle est énervée. » « Dis-lui que je l'attends dans la chambre voisine. Je m'habille, mais dis-lui que je l'attends. » Après peu d'instants, j'ouvris la porte à laquelle Sainte avait frappé. Elle n'avait plus de loup, mais baissait la tête. Elle dit « Ne partez pas. » Je répondis doucement « Je partirai, mais avec vous. » Elle dressa haineusement la tête et son mépris siffla. « Vous voulez me sortir de là ?» Je haussai les épaules et lui dis « Regarde-moi. Je te désire si fortement que je ne sais pas comment te prendre. » Elle me comprit. Et comme moi, ne sachant que faire, elle se troussa, s'assit sur un bidet et se lava. Je lui dis « C'est agréable ». Elle ajouta « Maintenant, je vais te laver. Baisse ton pantalon. » Elle se leva, passa la serviette entre ses jambes et je lui dis « Je t'essuierai. » Se laissant faire, elle me déboutonna. Le pantalon tomba sur mes pieds. Je le tirai. Je pris la place de Sainte sur le bidet. Elle reprit le savon, se savonna les mains. Comme elle se penchait, je lui pris la bouche. Sa langue gonflée m'emplit la gorge jusqu'au fond. Ses mains savonneuses me firent doucement gémir. Je lui dis « Allons boire, à nous rendre malades. Sortons, » dit-elle. Elle était nue, sous la robe légère, à peine décente. Je l'emmenais en taxi dans un bar sombre où nous avalâmes du whisky sans parler. Sainte déboutonnait sa robe en jouant. Je lui dis « Je ne voudrais pas que tu saches demain si nous avons couché ensemble cette nuit. » Dans le coin sombre du bar, elle amusait mes yeux de ses fentes les plus secrètes. Je versai le whisky sur sa gorge. Elle s'en gonflait les joues. Elle ouvrit ma braguette et se vida la bouche. Il y avait un hôtel au-dessus du bar dont elle monta nue l'escalier avec un sentiment de paradis. Je me réveillai le lendemain, ravagée. Sainte dormait. Je ne savais même pas si dans cette chambre de passe, où la veille en son ivresse elle était entrée nue, nous nous étions mêlés. J'avais perdu le souvenir du temps qui avait succédé au moment où, essoufflée d'avoir gravi l'escalier devant les bonnes, à demi stupéfaites, à demi rieuses, j'avais claqué la porte derrière nous. Je ne savais plus rien, ne cherchant plus, je ressentais le tremblement et la nausée qui suivent des abus sans mesure. J'avais mal. Je regardais Sainte allongée sur un lit que les désordres de la nuit avaient bousculé. Elle était l'image du malheur. Je ne doutais pas, à la voir, qu'elle ne souffrit comme je souffrais. Que le cauchemar qui maintenait sa bouche ouverte ne fût aussi atroce que mon état. J'entendis sonner 9 heures à l'église Saint-Roch. À ce moment, cette sonnerie lente qui avait en moi, dans mon corps épuisé qu'une sueur froide baignait, une résonance pénible mais lointaine, me fit l'effet d'un accord intime avec cette femme si étrangère, si indûment nue sur le lit, et que peut-être je n'avais pas encore embrassée. Je ne sais quoi d'affreux nous séparait, qui plus profondément nous unissait, nouait en nous ce lien de l'excessive souffrance que de nouvelles souffrances feront plus étroit. À ce moment, je pressentis l'horreur du désir que déjà nos corps avaient l'un de l'autre, que peut-être jamais nous n'aurions le pouvoir d'assouvir et que dans cet espoir de l'assouvir, nous ne ferions que rendre plus impatients. Assouvir, impossible, étaient les mots que balbutiait en moi la déliquescence de mon état. La certitude qu'en elle, la même lie était là, faite des mêmes mots, des mêmes douleurs et de la même indignité, ne me donnait pas le désir de la prendre dans mes bras. Elle avait la douceur des murs d'une affreuse prison dans laquelle j'avais décidé de mourir, la chérissant d'une manière définitive, puisque à elle, c'était l'agonie qui me liait. J'aurais voulu dans cette nuit désordonnée être certain de n'avoir pas su la prendre et de l'avoir laissée déçue, comme je l'étais. Mais il importait peu. L'eussais-je possédé ? N'étais-je pas définitivement déçu, puisque d'une étreinte possible que, dans l'excès de mon désir, je ne pouvais même plus imaginer, j'étais privé, puisque ma mémoire en était dépossédée. Je savais qu'elle s'éveillerait bientôt, qu'à ce moment je pourrais lui faire l'amour, lentement, sans finir, en accord avec la nausée, achevant de rendre intolérable un plaisir qui jamais n'est plus grand que dans l'impuissance d'un malaise qui s'accuse. Mais sans doute, un désir si sordide se satisfait plus parfaitement dans la défaillance que dans l'acte. À tort, je crus qu'elle ouvrait les yeux, si bien que le sourire de l'ironie fielleuse avec laquelle j'aurais accueilli sa surprise glissa sur mes lèvres. Un instant, un plaisir fait d'une méchanceté sans mesure s'empara de moi et je vis que dans la rue, le soleil brillait. J'avais joui de son étonnement s'éveillant, de son étonnement et de son dégoût. Elle continuait de dormir, mais d'avoir joui diaboliquement de la seule idée, j'eus le sentiment d'une complicité si entière qu'un instant je faillis me précipiter, l'étreindre comme un coq avec un gloussement de triomphe. Elle dormait, sans que jamais sommeil m'ait paru plus opposé à la paix. Mais je pensais qu'elle aurait ri avec moi, du même rire qu'aurait crispé la volupté et la souffrance, et que parfois, subrepticement, je sais que je trouverais dans l'agonie. Quand elle s'éveilla, je ne pus retenir un sourire. Elle ouvrit les yeux, me fixa, et le sentiment indéfinissable, mais de souffrance, qui parut sur ses traits, me découragea. Je n'étais pas surpris, mais paralysé dans mon faible désir de sauter sur elle. « Aidez-moi, » me dit-elle. Je la regardais, surpris. « Je voudrais m'habiller, » dit-elle encore. « Tout tourne dans ma tête. Vous paraissez aussi malade que moi. » Je lui dis qu'en effet, dans ma tête, tout tournait aussi. Je lui demandais « Avez-vous mal au cœur ?»« Oui, je voudrais vomir, » répondit-elle. « Mais vous ne pouvez pas ?»« Non, » dit-elle. « Bueno, largo. Es un extracto de la novela Sainte. Bueno, acabaré con mi querido Roberto Juarros, mucho menos porno y más filosófico para volver un poco al pensamiento, ahora que vas al trasfondo de la noche, si me escuchas en directo o en plena mañana, si eres, estás ya en lunes a las 8:30 o si me pillas viernes a las 12 en pleno mediodía de un viernes que se dice santo. Hombre, hay tantos que la verdad, mi preferido de todos es la dodécima poesía vertical de Roberto Juarros. Toda su poesía la llamó vertical. Tiene mucho que ver con la... Bueno, no la mística, porque más laico no hay, pero más bien algo de trascendencia, sin nombrar ningún dios. Vaivén de la ternura, que llega o se retira, como el sueño en un niño, manejando distancias que se acortan o alargan, sin cambiar de medida. El encuentro y la separación usan el mismo espacio que despierta a veces hacia un lado y a veces hacia el otro, como un hombre en su lecho, compartido o a solas. La ternura disuelve esa línea ilusoria que divide las aguas de la separación y del encuentro. Cerca y lejos no existen. Los crea la ternura, como el mar crea la playa con el borde inasible de sus sabias mareas. Uf. Algunas veces nos sentimos por fin asentados en la tierra. Ella parece entonces nuestra casa, y por un momento olvidamos nuestros pintorescos atuendos de seres destinados al exilio. Quizá por esas horas de arraigo sabemos que las cosas podrían haber sido de otro modo. Tener un lugar, habitar nuestra casa, aunque periódicamente nos expulsara el infinito. Pero lo mismo, en el arraigo o el exilio, seguimos sin conocer nuestra función. Quizá porque ignoramos la función de la tierra. Tu aliento te corrige, tu aliento me corrige, y también corrige al mundo, como un duende sonámbulo que empaña el cristal de la ventana y traza allí los símbolos que enlazan la vida con la vida. Desde el fondo de las formas más antiguas, las formas anteriores al aliento, surge a veces una metástasis de formas como para borrar aquellos símbolos, pero tan solo los rodean con los trazos protectores del origen. Y esos trazos, entonces, los abrazan como si pretendieran protegerlos de las infaustas intemperies o quizá del momento incorregible en que tu aliento ya no empañe el ya neutro cristal de la ventana. Bueno, y ahí llegamos al cúlpite del éxtasis anaisiana, sextofonista. Bueno, una de las grandes clímax de esta duodécima poesía vertical de Roberto Juarros, argentino, que murió en 95 también. Mira cómo se oran. También hay espacios hechos de nada, ámbitos imprescindibles para descansar un momento, ya que de todas las cosas hay que descansar un momento. Y hay además ciudades hechas de nada, hombres, caminos, árboles, palabras hechas de nada, libros, muertes, amores, mundos hechos de nada. Si el corazón se combina con ellos, tal vez comience a oír una música también hecha de nada, la única que puede abrir lo cerrado, la única que no necesita interrumpirse. Por otra parte, cuando todo sea nada, solo perdurará esa música, nada más que esa música. Mi mano acaricia tu sueño, y para mejor acariciarlo, se convierte ella también en sueño. Pero entonces tu sueño se convierte en una mano para poder corresponder a esa caricia. El amor será siempre el cruce de una mano que va y otra mano que vuelve, o será solamente el paso de dos sueños que se cruzan. Y por último, todos hablan de lo que han encontrado en el camino. Algunos también hablan de lo que no han encontrado. Y unos pocos se refieren a lo que no es posible encontrar. Pero hay quienes hablan de un encuentro que surge como una emboscada entre las manos, como una golondrina que nunca formó parte de ninguna bandada, como un gesto secreto que recoge la compasión que falta en los encuentros. Todo encuentro se crea como agua ante la sed. El resto es un espejismo que ni siquiera alcanza para desconcertar al desierto. Sexofonía se acaba aquí. Te invito el sábado a San Jordi, a la parada de contrabanda, a nivel de la Plaza Real. Estaré yo de 3:30 a 6:30, si me quieres conocer. Y si quieres conocer a todos los miembros de la radio más libre de Barcelona, pues vente desde las 11 y hasta las 8. Y si quieres ver a la pornoterrorista y más perras lúbricas contestatarias, vendrán con Diana, con Itziar Siga, con mucha gente de las perras barcelonesas y de más allá. A partir de las 13 salida desde Rambla Cataluña con Provenza, a las 15 llegan a Plaza Cataluña con Ramblas, a las 17 a la Plaza del Ayuntamiento, San Jaume, y a las 7 de la noche en la Rambla del Raval. Ahí, bueno, Yana estará meando, supongo, sobre el público y también exhibiéndose y, bueno, también, hombre, de vez en cuando firmando su libro, Pornoterrorismo. También después la Cafeta Pornoterrorista,